L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. Nous embarquons aujourd'hui pour une série de trois chroniques à la découverte d'un pays que j'ai récemment visité. Le pays en question nourrit l'esprit des aventuriers et des voyageurs en quête d'une expérience de déconnexion. Ces paysages désertiques ont été rendus célèbres grâce à un film où Peter O'Toole incarne le rôle d'un espion archéologue. Les Nabatéens y ont eu domicile en y laissant une architecture spécifique. Au Moyen-Orient, ce pays est vu comme un îlot de stabilité au milieu d'autres pays qui sont en situation de guerre ou dont les fondations politiques sont fragiles. Sa capitale est Amman, et il est possible de se baigner dans la mer Morte. Vous l'aurez certainement deviné, nous mettons le cap sur la Jordanie. À la découverte de la Jordanie, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. L'été dernier, j'ai pris la décision de partir découvrir la Jordanie. J'avais en tête les images du film Laurence d'Arabie et j'avais même entamé la lecture des 7 piliers de la sagesse il y a quelques années de cela. Je souhaitais voir de plus près ces paysages grandioses. En ce début de mois de novembre, il pleut des cordes au-dessus de Roissy et une épaisse chape de nuages bouche l'horizon. La lecture de la destination Amman sur le tableau de départ suffit à réchauffer l'atmosphère. Je rejoins un groupe d'une douzaine de personnes avec lequel je vais partager cette aventure pendant une dizaine de jours. Le vol se déroule sans encombre. Les films proposés à bord ne sont pas folichons, ce qui me laisse le temps d'avancer la lecture du polar acheté juste avant de partir. Une fois arrivé à Amman, les procédures douanières se font rapidement. Le sac de voyage en main, il est temps de quitter l'aéroport et de rejoindre le premier hôtel du séjour. Il fait nuit noire à Amman. Le moment est venu de se coucher afin d'être en pleine forme pour attaquer la première journée du périple. La Jordanie, ou Royaume Hachémite de Jordanie, compte une population de près de 10,5 millions d'habitants pour un territoire dont la superficie totale avoisine les 90 000 km². La Jordanie a pris son indépendance du Royaume-Uni le 25 mai 1946. Au niveau de ses voisinages géographiques, la Jordanie est entourée par Israël et les territoires palestiniens à l'ouest, par l'Arabie Saoudite au sud, par l'Irak à l'est et par la Syrie au nord. Son accès au golfe d'Aqaba lui permet de communiquer avec la mer Rouge. Le régime politique de la Jordanie est une monarchie constitutionnelle dont le souverain est le roi Abdallah II. Du point de vue historique, le territoire jordanien a subi l'influence de nombreuses civilisations. La plus célèbre étant celle des Nabatéens, qui ont bâti le site de Petra. Je reviendrai plus longuement dans la seconde chronique sur Petra et la civilisation nabatéenne. Le territoire actuel de la Jordanie passe sous tutelle britannique pendant la Première Guerre mondiale. Les Britanniques reprennent aux Ottomans un espace comprenant Aqaba, Bassora, Damas et Mossoul. Suite à la déclaration Balfour de 1917, les Britanniques découpent cet espace en deux, en utilisant le Jourdain comme ligne de partage. À l'ouest du Jourdain se trouvera le foyer national juif, et à l'est, la Transjordanie, qui deviendra par la suite la Jordanie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Légion arabe, qui comprend l'armée de Transjordanie, combat aux côtés de l'armée britannique. La Jordanie jouera un rôle dans la guerre israélo-arabe de 1948, mais elle ne prendra pas part à la guerre du Kippour en 1973. Dans les années 1970, le pouvoir hachémite mène une vaste politique de répression à l'encontre de groupes armés palestiniens. Le roi Hussein finira par reconnaître l'OLP comme étant l'unique entité légitime à représenter le peuple palestinien. Depuis, le pouvoir jordanien maintient sa stabilité en ayant des relations les plus pacifiées possibles avec les pays voisins. Gerash et le mont Nebo. Après ce bref tour d'horizon de l'histoire de la Jordanie, retour à la découverte du pays. Le jour s'est levé depuis un moment au-dessus d'Amman, lorsque j'ouvre les rideaux de la chambre d'hôtel. Le ciel est bleu et le soleil rayonne. Cela change radicalement du temps de la veille, juste avant de quitter la France. Gerash sera la première visite du séjour en terre jordanienne. Gerash, ou Gerasa, son nom romain, a été fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ, sous l'impulsion d'Alexandre le Grand. La cité de Gerash va prospérer grâce aux activités commerciales. Elle connaîtra son âge d'or au second siècle avant Jésus-Christ, au moment de la Pax Romana. Gerash est parfois qualifié de Pompéi de l'Orient. Ce qui m'a frappé lors de la visite de Gerash est le formidable état de conservation de la cité, que ce soit les allées de colonnades, le théâtre, les temples et les portes. À son apogée, Gerash a compté une population de près de 20 000 habitants. Gerash faisait partie de la Décapolis, qui était une sorte de ligue de 10 villes, comprenant notamment Amman et Damas. Ces cités gréco-romaines avaient des intérêts politiques, commerciaux et culturels similaires. L'un des monuments les plus spectaculaires du site de Gerash est l'Arche d'Adrien. Cette arche a été érigée pour la visite de l'empereur Adrien en 129. Au IVe siècle, l'Empire byzantin et le christianisme étendent leur influence sur les cités de la Décapolis. Ainsi, certains des temples païens de Gerash se retrouvent transformés en églises chrétiennes. Au fil du temps, Gerash va commencer à perdre de sa superbe et son rôle de plaque tournante du commerce mondial décroît. Au 7e siècle, Gerash est soumise aux attaques successives des Perses et des Arabes. En 750, Bagdad devient la capitale du monde islamique, faisant ainsi perdre définitivement à Gerash sa place stratégique. Faire la planche dans la mer Morte. Après la visite de Gerash, il est grand temps de prendre la direction de la mer Morte. La mer Morte se situe à 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Les eaux de la mer Morte ont un fort taux d'évaporation, ce qui explique l'aspect que l'on pourrait qualifier de visqueux. Les récits bibliques mentionnent la mer Morte dont les rives auraient abrité les cinq villes de la plaine, Sodome, Gomorre, Adma, Zeboïm et Zoar. Dans la Genèse, ces villes auraient été détruites par la colère de Dieu. La baignade dans la mer Morte reste une expérience à part entière. L'entrée dans l'eau se fait facilement et rapidement, vous vous trouvez à faire la planche sans le moindre effort. À titre personnel, je n'ai jamais flotté avec autant de facilité. J'ai même eu l'impression, par moments, d'être installé dans mon canapé. Nous avons essayé avec mes camarades de voyage de nous mettre sur le ventre et de nager un peu. Le résultat ne fut guère concluant et nous nous sommes retrouvés rapidement à faire la toupie à la surface de l'eau. À ce moment-là, le principal challenge est de ne pas se mettre de l'eau salée dans les yeux ou sur les lèvres. Après la séance de trempette, il convient de se rincer à l'eau claire pour retirer la couche huileuse de sel. Pour les plus téméraires, un gommage de boue noire peut être réalisé. Aucune personne du groupe n'a cependant tenté l'expérience. Ainsi s'achève cette première chronique dédiée à la découverte de la Jordanie. Après avoir quitté les rivages de la mer Morte, nous prendrons la direction de Petra, puis nous rentrerons dans le désert du Wadi Rum pour 5 jours. La déconnexion du monde et les longs moments d'introspection sont un souvenir marquant de ce voyage. En attendant de vous raconter les soirées autour du feu en compagnie des Bédouins, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.